Place au fortifiant et aux trois cuillères. Quel fortifiant? C'est un peu la grande question. On en a quelques-uns devant nous, là, des pastilles, du sirop, des fruits. Je sais pas, à voir, à découvrir. Pour ce qui est en tout cas sûr, c'est qu'on a, on aura trois cuillères qui vont nous servir à goûter de ce fortifiant. Alors si on peut revenir juste sur la slide de l'avant. Donc effectivement, Culte KD, pour ceux qui ne connaîtraient pas, qui seraient en visite tout nouveau, c'est un culte par mois un petit peu plus particulier, ou en tout cas on essaye de le rendre un peu différent, dynamique, le culte 4e dimension, 4e dimanche du mois. Avec l'équipe qui organise ces cultes, on a essayé de vous apporter quelques pistes pour être et devenir fort. Alors le 22 janvier, le 19 février, durant le mois de mars, avril, mai, jusqu'à aujourd'hui, on a par exemple pu vous révéler les secrets qui nous permettaient d'être un bon modèle, tout en vous avertissant, en s'avertissant aussi nous-mêmes. Hein, on se comprend dans le package et ce qu'on vous apporte, on en retire tout autant, tout en nous avertissant du fait que ben, les héros, ils ont aussi des faiblesses et qu'il faut être attentif à ça. Le 19 février, ben, on a vu comment tourner ces échecs en réussite. La force de résister, on a pu aussi aborder ces questions-là, voir les côtés positifs de ce qu'on pourrait voir comme étant négatif dans nos vies. Et aujourd'hui, après avoir parlé encore du Saint-Esprit la fois dernière, aujourd'hui, on va parler d'un gâteau fortifiant, donc qui réunit un peu ces différents, je ne sais pas quelle formule a ce gâteau, mais c'est un gâteau fortifiant, vivifiant, et on va vous offrir trois cuillères pour goûter de ce gâteau, et je vais vous laisser découvrir lesquelles elles sont. Donc, parole à la première cuillère, où est-elle ?
Alors, la première cuillère, on la trouve dans la Bible, on la trouve directement également dans le texte de Nombre, à Nombre 13, qu'on va lire directement pour découvrir un petit peu ce que Dieu nous a préparé. Alors, je vous le situe juste avant, il s'agit du peuple d'Israël, on se trouve un tout petit peu après l'Exode, le peuple d'Israël est tout proche d'arriver au pays de Canaan, et là, Dieu ordonne à Moïse d'envoyer 12 espions dans le pays de Canaan pour y voir quelles sont les richesses, qui sont les gens qui y habitent. Et puis là, il y a ces 12 personnes, qui sont tous des princes et des tribus, qui partent pendant 40 jours, qui parcourent plus de 600 km, ils espionnent tout, ils regardent tout. Puis quand ils reviennent, ils font leur rapport à Moïse, ainsi qu'au peuple. Alors voici ce qu'ils leur racontent. « Nous sommes allés dans le pays où tu nous as envoyés. À la vérité, c'est un pays où coule le lait et le miel, et en voici les fruits. Mais le peuple qui habite ce pays est puissant. » Les villes sont fortifiées, très grandes. Nous y avons vu des enfants d'Anak, le géant. Les Amalécites habitent la contrée du Midi, les Éthiens, les Jébusiens et les Amoréens habitent la montagne, et les Canaéens habitent près de la mer et le long du Jourdain. Caleb fit taire le peuple qui murmurait contre Moïse. Il dit, « Montons, emparons-nous du pays, nous y serons vainqueurs. » Mais les hommes qui étaient allés avec lui dirent, « Nous ne pouvons pas monter contre ce peuple, car il est plus fort que nous. » Au chapitre suivant, il y a encore Josué et Caleb qui se prononcent en disant, parlèrent ainsi à toute l'assemblée des enfants d'Israël, « Le pays que nous avons parcouru pour l'explorer est un pays très bon, excellent. Si l'Éternel nous est favorable, il nous mènera dans ce pays et nous le donnera. C'est un pays où coule le lait et le miel. » C'est hallucinant, ces deux aspects différents, ces deux regards différents qu'ils ont eus entre les espions et Caleb et puis Josué, à croire même qu'ils ne sont pas partis dans la même région. Et je me suis demandé, mais qu'est-ce qui était différent entre chacun d'entre eux? Et puis là, le texte nous donne encore une clé un peu plus loin. Et parce que mon serviteur Caleb a été animé d'un autre esprit et qu'il a pleinement suivi ma voie, je le ferai entrer dans le pays où il est allé et ses descendants le posséderont. Alors là, le texte nous donne simplement une clé importante. C'est que Caleb et Josué ont entièrement fait confiance à Dieu. Et puis c'est là même avec audace, puis ils ont prononcé, mais on va les vaincre ces géants. Ils n'ont eu aucune crainte, aucun doute. Ils ont dit, ils ont beau faire 5 mètres de haut, ils ont beau avoir des murailles énormes, on a beau être peu nombreux, non, on va les vaincre, on a Dieu avec nous. Et ils n'ont pas regardé cette situation avec leur regard d'homme, avec leur propre faiblesse, mais plutôt ils ont considéré leur faiblesse comme une force pour Dieu. Ils ont dit, moi je ne peux pas, mais Dieu il peut, et avec lui je vais pouvoir. Donc ils ont pris le regard, finalement, le point de vue de Dieu sur cette situation. Et même, plus précisément, ils ont regardé aux promesses que Dieu leur avait données. Donc Dieu nous a dit, on pourra aller là-bas. Voilà, pour moi, une des premières cuillères importantes. Je pense dans la vie, c'est tellement souvent comme ça, ou face à plein de situations, professionnelles, familiales, ou même face à des personnes, on n'y voit aucune solution, on y voit simplement de l'échec, on y voit de la souffrance. Puis peut-être que simplement Dieu il a un autre plan, que Dieu y voit simplement plus loin, et qu'il faut parfois lui faire confiance, lui donner entièrement notre confiance. Et je pense que moi j'ai dans ma vie déjà plusieurs fois, dans mon retour au flambeau, vu des enfants qui étaient vraiment difficiles, mais quelque chose vraiment, vraiment insupportable pour nos séances, où les parents n'avaient plus d'espoir, nous-mêmes on n'avait plus d'espoir. Et puis simplement, entre chefs, on a parfois remis ça entre les mains de Dieu, et puis 5 ans plus tard, c'est des gens qui peuvent devenir maintenant peut-être responsables, et puis avec qui j'ai extrêmement plaisir d'être à nos séances. Et notre propre regard ne suffit pas, il faut demander le regard de Dieu. Alors pour vous en souvenir un peu plus souvent, dans la vie de tous les jours, je vous propose l'image suivante. Bien souvent, on se retrouve sous un nuage, sous un orage, et c'est extrêmement sombre. On n'y voit que de l'horreur. Et pourtant, vous savez ce que Dieu y voit à ce moment-là? Je ne sais pas si vous avez pris l'avion, c'est ça qui se passe. Pour le même nuage, il y a 2 regards différents. Soit c'est simplement quelque chose de désolation, du désespoir, aucune solution, la souffrance. Soit Dieu, il y voit aussi quelque chose d'autre, c'est une solution. Le nuage, il est toujours là. Dieu, il ne renie pas du tout la souffrance ou les difficultés, mais il veut pouvoir nous prendre avec lui puis nous faire voir ses plans. Ces plans qui sont bons et beaux pour nous. Alors pour conclure, sur cette cuillère, je dirais que cette cuillère c'est positiver, mais positiver c'est regarder les promesses de Dieu, également c'est refuser les mensonges. Positiver c'est donner sa confiance en Dieu, et puis c'est un choix qu'il faut prendre.
Alors moi je vais vous parler de la deuxième cuillère. Et c'est en fait oser te lancer, oser faire un pas, oser prendre des challenges. Et puis je vais parler de Jonathan, qui était le fils de Saul le roi. Et on va lire un passage dans 1 Samuel 14, 6 à 15. Mais avant de le lire, je vais juste recontextualiser. Alors en fait, à cette époque, il y avait les Israélites et puis les Philistins qui étaient en guerre. Et puis les Philistins, ils avaient confisqué en quelque sorte, ils avaient fait que tous les Israélites, ils n'avaient plus aucune arme. Donc en gros, il n'y avait que Saul et son fils Jonathan qui avaient des armes. Donc déjà, c'était la catastrophe. Ils n'auraient jamais pu avoir la victoire. Et en plus, ils étaient en tout petit nombre. Alors que les Philistins, ils avaient une armée de dingue. Donc c'est vrai que c'était un peu la galère à cette époque. Et à ce moment-là, en fait, il y avait Saul qui se trouvait sous un arbre, tranquille, sous un grenadier. On ne sait pas s'il attendait quelque chose, s'il se reposait ou s'il se cachait. Ou est-ce qu'il se cachait du soleil parce qu'il faisait trop chaud. On ne sait pas trop. Mais en tout cas, il attendait sous un arbre avec son armée. Et à ce moment-là, son fils, Jonathan, voilà ce qui va se passer. Je vais le lire. Alors Jonathan dit au jeune homme qui portait ses armes, « Viens et poussons jusqu'au poste de ces incirconcis. Peut-être l'Éternel agira-t-il pour nous, car rien n'empêche l'Éternel de sauver au moyen d'un petit nombre comme d'un grand nombre. » Celui qui portait ses armes lui répondit, « Fais tout ce que tu as dans le cœur, n'écoute que ton sentiment. Me voici avec toi, prêt à te suivre. » Eh bien, dit Jonathan, « Allons à ces gens et montrons-nous à eux. S'ils nous disent, arrêtez jusqu'à ce que nous venions à vous, nous resterons en place et nous ne monterons point vers eux. Mais s'ils disent, montez vers nous, nous monterons, car l'Éternel est libre entre nos mains. C'est là ce que nous servira de signe. » Ils se montrèrent tous deux au poste des Philistins, et les Philistins dirent, « Voici les Hébreux qui sortent des trous où ils se sont cachés. » Et les hommes du poste s'adressèrent ainsi à Jonathan et à celui qui portait ses armes. « Montez vers nous, et nous vous ferons savoir quelque chose. » Jonathan dit à celui qui portait ses armes, « Monte après moi, car l'Éternel est libre entre les mains d'Israël. » Et Jonathan monta en s'aidant des mains et des pieds, et celui qui portait ses armes le suivit. Les Philistins tombèrent devant Jonathan, et celui qui portait ses armes donnait la mort derrière lui. Dans cette première défaite, Jonathan et celui qui portait ses armes tuèrent une vingtaine d'hommes, sur l'espace d'environ la moitié d'un arpent de terre. L'effroi se répandit au camp, dans la contrée et parmi tout le peuple. Le poste et ceux qui ravageaient furent également saisis de peur. Le pays fut dans l'épouvante. C'était comme une terreur de Dieu. Et en fait, dans la suite du passage, on peut voir que Saul, il est prévenu par un sentinelle qu'il y a ça qui se passe. Il se dit, bon, ben, on va y aller, on va aller en guerre. Et quand il arrive sur place, en fait, il voit tous les Philistins s'entretuer. Et c'était vraiment juste la folie de Dieu, quoi. Et puis, ils ont en fait eu la victoire. Et puis, tout ça, en fait, un peu grâce à Jonathan qui s'est dit, ben, je vais prendre le challenge, je vais faire un pas en avant. et je vais aller de l'avant. Et s'il n'avait pas fait ça, ben, on ne sait pas qu'est-ce que serait devenue l'histoire, en fait. Et puis c'est un peu comme ça, des fois, dans notre vie, ben, des fois, on est un peu comme Saul, on attend sous un arbre, et puis on se dit, ben, on attend que Dieu fasse un miracle, on attend que Dieu me montre où aller. Mais en fait, ce n'est pas toujours ça qu'il faut faire. Il ne faut pas toujours attendre que Dieu nous montre où aller, mais il faut juste se mettre en route. Il faut se dire, ben, voilà, maintenant j'avance, et peut-être que Dieu me dirigera par-ci, par-là. Et puis on peut même, bon, c'est clair, demander des signes, et c'est clair que Dieu nous répondra. Et puis on a une petite illustration par Aurélia, qui va nous montrer comment Dieu conduit les choses.
Dieu. Alors, je suis acteur. Imagine que je suis dans ma vie. Vous me voyez tous ? Environ, vous pouvez vous lever, sinon ben, je ne peux pas me lever plus, moi. Seigneur, montre-moi où je dois aller. Ah, mais Seigneur, je dois aller à gauche ? Je dois aller à droite ? Je dois aller tout droit ? Je ne sais pas, parle-moi. Bon, je ne sais pas où je dois aller. Bah, peut-être que je pourrais... Seigneur, ok, j'avance, puis tu me dis si je peux aller à gauche ou à droite. Peut-être, ce sera... voilà, peut-être que tu vas me répondre. Seigneur, est-ce que je dois aller à gauche, à droite, Seigneur ? Dis-moi. Ah, merci. Ah ouais, super. Ah ouais, non, peut-être... Ah ouais, ok, d'accord, je peux aller là. Mais j'ai pas beaucoup... Non. Voilà.
Merci. Donc en gros, ben, on voit bien, si on reste juste statique, qu'on fait rien, ben, Dieu ne peut pas nous diriger en fait. Il ne peut pas nous faire avancer à droite, à gauche. Bon là, il n'y avait pas beaucoup de place. Hein. Mais des fois, on peut se demander, mais qu'est-ce qui nous empêche aussi d'avancer, de prendre des challenges ? Et puis, je pensais à la paresse un peu. Bon, ça ne concerne peut-être pas tout le monde, mais ça peut arriver. Que des fois, on a juste la paresse de bouger. On se dit, ben, on est bien là où on est. On n'a juste pas envie de prendre de challenge. On n'a juste pas envie de bouger parce que de toute façon, on est confortable dans notre situation. Mais dans Proverbes 6:9, c'est marqué « Va vers la fourmi paresseuse, considère ses voies et deviens sage. Elle n'a ni chef, ni inspecteur, ni maître. Elle prépare en été sa nourriture, elle amasse pendant la moisson de quoi manger. Paresseux, jusqu'à quand seras-tu couché ? Quand te lèveras-tu de ton sommeil ?» Et puis moi, en fait, j'aime beaucoup ce proverbe parce que ça me concerne des fois. Mais je trouve ça vraiment pas mal de se dire, ben, en fait... Plutôt qu'être paresseux, ben, avançons, prenons des challenges. Et puis vraiment, il faut se motiver soi-même, en fait. Et puis des fois, il faut se pousser, il faut se dire, bon, allez, on y va et tout. Mais c'est, je pense que c'est super important. Et puis la fourmi, en plus, ce qu'elle a de bien, c'est qu'elle ne regarde pas vraiment à ses amis, en fait, ou à ses gens qui font ou pas. Elle avance, elle prend sa graine, même si c'est lourd, même si elle s'effondre, elle continue. Et puis elle ne regarde pas si les gens autour d'elle font pareil. Donc c'est un peu comme Jonathan, il voit qu'il n'y avait personne qui bougeait, même pas son père, mais il avançait quand même. Ouais, ça serait pas mal de faire la même chose parce que souvent bah, on regarde, mais si l'autre bouge pas, bah, peut-être que moi j'ai pas besoin non plus en fait. Mais vraiment se regarder soi-même, est-ce que moi je vais oser prendre un challenge ? Est-ce que moi je vais faire un pas ? Et il peut y avoir aussi la peur en fait. Donc, prochain slide. La peur qui peut un peu nous empêcher d'aller de l'avant. Ça peut être la peur de la défaite, la peur de souffrir, peur de se retrouver face à une situation qu'on ne maîtrise pas. Et puis aussi peut-être la peur du regard des autres. Qu'est-ce que les autres vont penser si moi je prends ce challenge qui a l'air juste fou ? Peur d'être humilié aussi, parce que peut-être qu'on se dit ben, « je ne vais pas y arriver, c'est un peu trop fou pour moi ». Mais en fait, ce qui est trop beau à savoir, c'est que Dieu il est avec nous. Comme avec Jonathan, en fait. Il était là, il a donné le signe, il a montré qu'il était là. Même si au début, ben, Jonathan ne savait pas trop, mais en fin de compte, Dieu lui a montré sa présence. Et puis on peut lire dans le psaume très connu, 23, « Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi ». Et je trouve ça vraiment merveilleux parce que c'est une promesse de dingue quand tu dis ben, « Je suis dans la vallée de l'ombre de la mort, mais je n'ai pas besoin d'avoir peur. » Alors à quel moment est-ce qu'on peut avoir peur en fait ? On ne devrait pas avoir peur. Bon, la peur est humaine, mais c'est clair que Dieu sera toujours avec nous en fait. Et puis en conclusion, la clé de la victoire, c'est la foi. Parce qu'on ne peut pas prendre des challenges si on n'a pas la foi. C'est-à-dire que si on n'a pas l'assurance de Dieu, ben, on ne peut pas avancer. Parce que si on avance et qu'on ne voit pas trop le but, on ne sait pas trop où on va... Ben, ça ne sert pas à grand-chose parce qu'on va vite s'arrêter en fin de compte. Et ce qui est beau à savoir, c'est que la foi, en fait, ben, c'est Dieu qui la donne. Et puis même si nous, on se dit, ben, j'aurai jamais la foi pour faire ça, ou j'arriverai jamais, moi je ne comprends pas comment ça va être possible, ben, en fait, c'est Dieu qui peut nous donner cette assurance de se dire, ben, on va avoir la victoire. Et puis moi, je vous dis vraiment de profiter de cette vie que Dieu nous donne, de ces challenges, et de les prendre en fait, dans vos vies. Je ne sais pas quels sont vos challenges, je pense qu'on en a tous, des différents. Mais vraiment les prendre et puis se dire, ben, c'est Dieu qui va nous aider, c'est Dieu qui va nous donner la victoire. Et c'est vraiment Dieu qui va nous donner aussi la force de le faire. Et puis, je vous encourage aussi à juste lire la Bible, parce que c'est vrai que c'est quelque chose qui nous encourage toujours. Parce que des fois, il y a des gens qui nous diront « Non, mais c'est pas possible, c'est trop grand pour toi » ou « C'est juste, t'es pas capable de faire ci, faire ça ». Mais en fait, si on lit dans la Bible, il y a tellement de promesses, il y a tellement de vérités de Dieu qui nous encouragent, en fait. Donc bon, c'est clair, il faut suivre les conseils des gens, des fois, mais aussi, il faut surtout suivre les conseils de Dieu. Donc voilà. Je laisse la place à la troisième cuillère.
Voilà, bonjour. Alors, je suis la troisième et dernière cuillère du matin. Donc, cette dernière cuillère qu'on avait à cœur de vous laisser, elle est illustrée là par un super oiseau différent sur un fil. Chacun peut interpréter comme il veut cette image. La dernière cuillère qu'on voulait vous laisser, la dernière fortifiant, c'était « Sois toi-même et Dieu fera avec ». Alors, on va regarder ça un petit peu plus en détail ensemble. Pour ça, on va s'intéresser à Moïse. On va lire un texte dans Exode 4. Mais avant, je me suis dit, c'est important quand même de se mettre au clair sur qui est Moïse. J'imagine que la plupart d'entre vous avaient une piste, mais peut-être pas, et c'est OK. Donc Moïse, c'est un homme important que Dieu a choisi pour faire des grandes choses. C'est un homme à qui Dieu a donné, par exemple, les 10 commandements. C'est l'homme aussi que Dieu a choisi pour aller parler au Pharaon, pour faire sortir son peuple d'Égypte. Donc, ça, c'était du boulot, je peux vous dire. Enfin, j'imagine. Hein. Alors, là, pour situer l'histoire, on peut déjà mettre le texte, si jamais. Donc, c'est au tout début de la rencontre de Moïse avec Dieu. Donc, moi, j'ai imaginé, je pense que c'est comme ça, mais je ne sais plus exactement où était Moïse, mais il se promenait dans le désert et tout à coup, il a vu un buisson en flammes qui, très étonnamment, ne se consumait pas. Donc, il y avait plein de feu, mais il ne se diminuait pas, pas comme d'habitude. Et Moïse, il s'est dit, mais c'est quoi cette histoire? Je vais aller voir ça de plus près. Il a été regardé, et le buisson lui parle, alors mal barre. Hein. Et là, Dieu lui parle et lui dit, eh Moïse, c'est moi l'Éternel. Et moi, j'ai un projet pour ta vie, c'est pas n'importe quoi, mais je compte sur toi. Mon projet, c'est que tu ailles parler en mon nom au Pharaon et que comme ça, tu lui demandes de faire sortir mon peuple d'Égypte. Sacrée histoire, non? Voilà. Et on va voir un petit bout du dialogue entre Moïse et Dieu. Donc, à cette grande question, Moïse, il dit au Seigneur, « Ce n'est pas possible, Seigneur. Je n'ai pas la parole facile. Je ne l'ai jamais eue. Et je ne l'ai pas davantage depuis que tu me parles. J'ai beaucoup trop de peine à m'exprimer. » Donc, voyez, hein, il doit aller parler au Pharaon, et Moïse, il est là, « Mais moi, j'ai de la peine à parler. C'est vraiment un problème que j'ai. » Ensuite, le Seigneur lui rétorqua, « Qui a donné une bouche à l'homme? Qui peut le rendre muet ou sourd, voyant ou aveugle? N'est-ce pas moi, le Seigneur? Eh bien maintenant, va. Je serai avec toi quand tu parleras. Je t'indiquerai ce que tu devras dire. » Et là, Moïse, pourtant il a vu quelque chose déjà d'impressionnant. Hein, un buisson qui ne brûle pas, Dieu qui lui parle. Il pourrait se dire, « Ah, mais il m'a dit, il est avec moi. » Non, non, Moïse, il dit, « Je t'en supplie, Seigneur, » reprit Moïse. « Envoie quelqu'un d'autre. » Alors le Seigneur se mit en colère contre Moïse et lui dit, « Tu as un frère, Aaron le Lévite. Je sais qu'il est éloquent, lui. » Ça veut dire qu'il parle bien, si jamais. Non, mais tout le monde ne sait pas. Lui, n'est-ce pas? D'ailleurs, il est déjà en route pour venir te trouver. Dès qu'il te verra, il sera plein de joie. Tu lui parleras, tu lui communiqueras ce qu'il devra dire. Moi-même, je serai avec chacun de vous quand vous parlerez et je vous indiquerai ce que vous aurez à faire. C'est lui qui s'adressera au peuple à ta place. Il sera ton porte-parole. Et toi, tu seras comme le Dieu qui l'inspire. De plus, tu tiendras à la main ce bâton qui te servira à faire des miracles. » Donc, le programme de Dieu continue avec Moïse. Il y a énormément de choses à dire sur ce texte et moi, je ne suis pas une grande théologienne. Alors, j'ai décidé de juste relever trois points qui, pour moi, sont extraordinaires. C'est que Moïse, ce grand homme que Dieu a choisi, eh ben, il est authentique avec Dieu. Et quand Dieu lui dit, tu vas aller parler, tu vas aller faire ça, lui, il lui dit, ah non, merci beaucoup. Mais non, je ne veux pas aller, moi j'ai peur. Moi, je n'aime pas parler devant les gens. Je crois même qu'en fait, Moïse bégayait, si j'ai bien compris. Mais en tout cas, il avait des difficultés dans la parole. Et il dit à Dieu, non, non, moi, je ne veux pas. Et quand bien même Dieu lui dit, mais c'est moi en personne qui serai avec toi. » Il lui dit, « Non, 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 moi, s'il te plaît, envoie quelqu'un d'autre. » Et moi, j'ai trouvé magnifique cette authenticité, en fait, qu'un grand homme de Dieu, il a pu et il a eu avec Dieu. Où il ne s'est pas dit, « Mince, c'est le Seigneur des Seigneurs qui me parle. Je prends sur moi, j'y vais. Oh, j'ai gonflé un bloc. Oh, oui, oui, j'y vais, Seigneur. » Et puis, je me suis dit, « Mais on a tous des peurs. On a tous des limites. » Et on a tous nos craintes. On peut avoir peur de suivre Dieu parce que peut-être qu'on devra lui confier notre porte-monnaie. Mais c'est des peurs réelles. On peut avoir peur de suivre Dieu parce qu'on se dit, nom d'une pipe, si c'est lui qui me choisit un mari puis qu'il le choisit mal, alors non merci. On peut avoir plein de peurs différentes. On peut vraiment avoir plein de peurs. Et ce qui est extraordinaire dans ce texte qu'on a pu voir, c'est qu'on peut les dire à Dieu. On n'est pas obligé de jouer un jeu ou quoi que ce soit, mais on peut dire à Dieu, « Eh ben Seigneur, moi, où j'en suis aujourd'hui, j'ai peur. » Et là, non, j'ose pas aller comme ça. Ça, c'est le premier point. L'autre chose que je trouve extraordinaire et qui montre la grandeur de Dieu, c'est que nos limites à nous, eh ben, c'est pas des limites pour Dieu. Que nous, là où on se dit, aïe, 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 là, c'est juste pas possible d'aller. Eh ben, Dieu, il dit, mais si, c'est possible. Et il trouve des solutions. Et il trouve des solutions en nous équipant, en mettant des gens sur notre route, en répondant à nos questions, à nos peurs, et en étant avec nous. Mais je trouve génial de se dire, ok, là où nous on est arrêtés, Dieu il ne l'est pas. Et il voit bien au-delà. Donc quand nous on voit une montagne, on peut être sûr que Dieu il sait déjà ce qu'il y a derrière. Hein. Et puis que lui, peut-être qu'il voit à peine la montagne comme une miette de pain. Je ne sais pas. Et le troisième point, attendez, je regarde pour être sûr que je n'oublie pas de vous dire des choses. Le dernier point, c'était de dire, enfin moi, ce que je trouve frappant dans ce texte, c'est que Dieu respecte Moïse. Dieu se met en colère contre Moïse. Ça l'énerve. Il lui dit, mais je serai avec toi. C'est OK. Puis Moïse, il dit, ah, non, 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 c'est pas moi qui vais. Mais il respecte. Et il respecte là où on est Moïse. C'est pas juste de la pâte à modeler. Il aurait pu claquer des doigts, Dieu, et puis lui donner de la parole facile. Il aurait pu le transformer. On n'a rien de temps. Mais non, Dieu, il fait avec Moïse comme il est, là où il en est, avec la foi qu'il a là maintenant, et il le respecte. Et ce que je trouve hallucinant, c'est que pour moi, c'est comme si là, ça montre Dieu qui est une sorte de gentleman, qui est d'accord de nous rencontrer comme on est, et qui n'est pas un dictateur, qui ne dit pas « Maintenant, ça c'est mon projet, bam, 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 je vais te modeler, puis tu vas y aller. » Parce que moi, je me dis, mais on pourrait tous imaginer. Dieu, il pourrait nous, nous donner des formes. Chacun fait la pose qu'il veut. Hein. Mais nous donner une forme spéciale pour pouvoir entrer dans son projet. Mais non, Dieu, il chemine avec nous. Et pour moi, c'est incroyable de voir qu'il n'a pas changé son projet pour la vie de Moïse, mais qu'il lui a donné ce que Moïse avait besoin au jour où il l'a rencontré pour aller dans ce projet. Et pour moi, c'est waouh, ça parle juste d'un Dieu incroyable. Donc voilà, c'était les trois points que moi, je voulais relever aujourd'hui. En gros, c'est vraiment ces trois points, c'est simple. C'est être authentique, on peut tout dire à Dieu. Ce que nous, on voit qui nous arrête, ben, ça n'arrête pas à Dieu. Et Dieu nous respecte et nous aime. Et ce n'est pas quelqu'un qui enfonce des portes fermées ou ouvertes. C'est quelqu'un qui avance avec nous. Et pour ça, c'est incroyable. Alors, c'est une cuillère fortifiante qui donne une certaine liberté, mais qui implique aussi un certain lâcher-prise. Et puis une humilité, parce que ce n'est pas toujours simple d'être d'accord qu'aujourd'hui où j'en suis, j'ai peur. Puis Seigneur, tu m'appelles à des choses incroyables, mais ah non merci, moi j'ai trop peur. Alors voilà, c'était la dernière cuillère pour vous ce matin.
Alors merci à nos trois, merci à nos trois cuillères, c'était Aurélien, Alicia et Sarah. Le fortifiant est devant nous, les cuillères aussi. À nous de choisir si on veut les utiliser et goûter de ce fortifiant. On se laisse quelques minutes pour digérer et puis faire les choix qu'on aurait à faire. Et on passera juste après ça un temps de témoignage libre pour ceux qui voudraient nous partager un élément sur ce qui a été dit aujourd'hui ou sur ce qui a été dit durant les derniers cultes 4D, vu que c'est la fin d'une série.